nuit, j'écoute la pluie, un journal autour des oreilles. Mon vieux complet est tout mouillé, mais j'ai toujours ma bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Chacun fait ce qui lui plaît, tout le monde veut sa place au soleil. Mais moi je m'en fous, je n'ai rien du tout, rien qu'une jolie bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
Amis, bienvenue à vous dans cette émission aujourd'hui dédiée à une rapide histoire du syndicalisme français en partant de cet article du Monde diplomatique évoquant la charte d'Amiens. Un texte dont l'histoire est frauduleusement détournée, notamment par les médias dominants à la solde du patronat pour décrédibiliser le syndicalisme. La charte d'Amiens est adoptée en 1906 lors d'un congrès de la CGT. Ce texte donne un double objectif au syndicalisme. Défense des revendications immédiates et quotidiennes et lutte pour une transformation d'ensemble de la société par l'expropriation capitaliste en toute indépendance des partis politiques et de l'État. Elle préconise la grève générale comme moyen d'action et considère que le syndicat, groupement de résistance, est la base de la réorganisation sociale. Or, le sens de cette charte d'Amiens est régulièrement dévoyé, notamment par des syndicats à la solde du patronat, des syndicats jaunes comme on dit, et qui arguent que le syndicalisme doit être indépendant des partis politiques, et que faire du syndicalisme, ce n'est donc pas faire de la politique, ce qui est évidemment un contresens, voire une bêtise tout à fait volontaire. On en parle avec André, notre copain prof d'histoire géo. Salut André.
Bonjour à tous.
Dans le Monde diplomatique, édition de mai 2018, cet article signé Michel Pigeonnet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et notamment auteur de ce bouquin « Regard sur le syndicalisme révolutionnaire ». La charte d'Amiens empêche-t-elle la convergence des luttes ? Demande le diplo. Épineuse indépendance syndicale. Certains proposent de la réinterroger, d'autres de la dépasser. Parce qu'elle affirme l'indépendance des syndicats à l'égard des partis politiques, la charte d'Amiens est parfois présentée comme un obstacle à la convergence des luttes. Adoptée par la Confédération Générale du Travail en 1906, CGT donc, ce texte fondateur ne se résume pourtant pas à une séparation hermétique entre social et politique. Ça fait déjà un certain temps, et particulièrement en ce moment, hein, puisqu'on est en plein mouvement social des cheminots, on entend des voix dans les médias dominants qui disent « attention, attention, faut faire du syndicalisme, mais pas de la politique », comme si on pouvait dissocier les deux. Or, dans son article qui survole notre histoire de France, Michel Pigeonnet nous démontre par les faits que syndicalisme et politique, c'est indissociable, car le syndicalisme, c'est de la politique, et c'est de la politique même de la base.
Oui, ça a toujours été lié. Il n'y a jamais eu de séparation nette entre la politique et le syndicalisme en France. Certes, les rapports politiques et syndicats en France ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, l'histoire n'est pas la même. En Angleterre, il y avait des syndicats assez corporatistes, assez puissants, qui s'appelaient les trade unions. Et les trade unions ont décidé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, de créer leur propre parti politique, le Labour Party, qui devenait la courroie de transmission du syndicat au départ. C'est-à-dire le parti travailliste était destiné à contrer l'uniformité de la politique britannique. N'oubliez pas qu'il n'y avait que deux partis en Angleterre qui étaient des partis de droite. L'un, les Tories, les conservatives, les conservateurs, étaient plutôt représentant la noblesse, l'aristocratie, la gentry, la vieille société anglaise.
Pour aller vite, les riches.
Oui, riches, bien sûr, très, très, très riches. Et puis les liberals, les whigs, étaient plutôt la grande bourgeoisie d'affaires, bourgeoisie commerçante, bourgeoisie industrielle, plus favorable au libre-échange que les Tories, qui étaient plus favorables au protectionnisme, etc. Bien. Et ces deux partis se succédaient, alternaient au pouvoir. Alors bon, la classe ouvrière anglaise a décidé de créer un parti politique, là, directement. Donc les liens entre unions et Labour étaient des liens étroits. Bon.
Et là, tu parles du 19e siècle.
Le 19e et du début du 20e siècle jusqu'aux années 1970 en Angleterre, il y avait un lien entre les deux. Puis ce lien s'est distendu et puis le Labour est devenu un parti social-démocrate traître, comme notre parti socialiste avec Blair, c'était devenu un parti de droite, de youpies, etc. Bon. En Allemagne, le schéma est un petit peu différent. Il y a un parti socialiste extrêmement fort, puissant, et également des syndicats assez forts, puissants. Leurs liens sont très étroits. Bien sûr, ce ne sont pas des liens structurels, organisationnels, mais enfin, ce sont quand même des liens assez étroits. Les sociaux-démocrates allemands ont des liens étroits avec un syndicalisme qui, dès le départ, est plutôt réformiste et modéré, axé sur la négociation, la discussion, etc. Mais un syndicalisme qui, dès avant la guerre 14-18, obtient des succès tout à fait considérables. Il y a les lois sociales en Allemagne, même dans l'Allemagne non démocratique de l'Empire, du Second Empire allemand, sont beaucoup plus avancées qu'en France. Il y a déjà la sécurité sociale depuis Bismarck, depuis 1888, dans les grandes entreprises allemandes. C'est pas tout à fait la même chose. Et il y a un socialisme plutôt réformiste, puisque ce sont les socialistes allemands qui vont inventer le révisionnisme, le réformisme avec Bernstein. Bon. En France, c'est assez différent. D'abord, le syndicalisme est, sur le plan de l'organisation, antérieur aux socialistes. Il y a d'abord, sous le Second Empire, une loi en 1864 qui autorise la grève, sa première loi. Donc la grève existait, mais elle était illégale depuis la loi Le Pelletier de la Révolution française, 1791. La bourgeoisie interdit toute coalition, ce qu'on appelle une coalition, c'est la grève, et toute organisation de la classe ouvrière, etc. Enfin bon, interdit totalement. Alors que bien sûr, les organisations patronales, elles existent dès le départ, en quelque sorte. Hein, bon. Et cette loi d'interdiction du syndicalisme et de la grève est entamée en 1864 avec l'autorisation par le Second Empire du droit de grève. Encore est-il très limité, est-il souvent réprimé par l'armée, hein. On le voit ça dans Germinal. Hein.
Alors ça, tu nous avais expliqué dans une émission précédente, c'est Napoléon III qui, dans la deuxième partie de son règne, ne pouvant plus vraiment s'appuyer sur ses bases traditionnelles, essaye de mettre un peu de lest du côté des ouvriers pour voir s'il peut pas prendre un peu plus d'assises là-dessus.
C'est ce que les historiens appellent l'empire libéral, hein, je mets ça entre guillemets. C'est-à-dire qu'il lâche un peu de l'Est, en particulier sur le droit de grève. Il ne faut pas oublier qu'il avait fait toute une propagande avant son arrivée au pouvoir. Avant son coup d'État, il fait toute une propagande envers la classe ouvrière, promettant l'extinction du paupérisme, hein, selon le titre de sa petite plaquette. 1864, c'est un petit appel du pied vers les ouvriers, en quelque sorte, pour avoir un soutien.
On saute à 1789, qui voit une révolution bourgeoise. Et les premières républiques ne seront pas du tout socialement favorables aux ouvriers qui se voient interdits de regroupement. Guildes, corporations, coalitions et autres organisations ouvrières qui existaient sous la monarchie sont proscrits, éradiqués et plongés dans la clandestinité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de no man's land de représentativité ouvrière de la fin des guildes et de la Révolution française jusqu'à l'apparition du mouvement syndical en France au 19e ?
C'est partiellement vrai. C'est-à-dire qu'avant la Révolution française, il y a une organisation par corps de métier lorsqu'ils sont organisés. Il y a aussi une quantité d'ouvriers, de travailleurs qui ne sont pas organisés. Mais lorsqu'ils sont organisés en ville, généralement, ils sont organisés en corps de métier, jurant, de métier juré, ça porte plein de noms. Hein. Alors c'est assez particulier, ils ont un règlement intérieur. À l'intérieur d'une ville, tous les bouchers, ou tous les fabricants de bougies, ou tous les savetiers, ont les mêmes règles, c'est très réglementé. Le travail est réglementé aussi, on ne peut pas employer plus de temps de compagnons, tant d'apprentis, l'apprentissage est réglementé aussi. On ne peut pas faire travailler à la bougie la nuit. Ce sont des sortes de monopoles en quelque sorte, il faut y rentrer, il faut être maître. Alors en quelque sorte, il y a une structure qui est assez traditionnelle, il y a le maître, c'est le patron, c'est celui qui possède la boutique en gros, hein, et les outils. Et alors les ouvriers qualifiés, ceux qui ont fait leur apprentissage, leur métier, etc., ce sont les compagnons. Parfois ils mangent avec le maître, sous le même toit en quelque sorte, hein, la maîtresse hôtesse, hein, la patronne, et puis avec les apprentis aussi. Alors il y a donc une limitation à l'exploitation, mais en même temps il n'y a pas de vraie organisation séparée des ouvriers et des patrons. Ils ont, c'est traditionnel, c'est l'organisation traditionnelle. Alors tout ceci est interdit. Ce sont des libéraux, là, les gens de la Révolution française. Libéraux, c'est-à-dire qu'ils sont pour la liberté totale de fabrication, de commerce, etc., d'association entre l'ouvrier et le patron, libre association, libre marché du travail, etc. Et donc, il faut interdire tout ce qui peut limiter cette association. Donc, toute organisation patronale ou syndicale, ou ouvrière, pardon, est interdite. En réalité, on sait qu'il y a des arrangements entre patrons. En revanche, il est absolument interdit aux ouvriers de s'organiser pour, par exemple, refuser de travailler là où il y a le travail est sous-payé, ou etc., ou de faire la grève. Enfin bref, toute coalition est strictement interdite. C'est une loi très sévère, sous peine de... C'est un délit extrêmement grave, hein, passible du bagne, hein, prison. Bonaparte va renforcer cette législation libérale en mettant les ouvriers sous surveillance policière. Il impose le livret ouvrier. Les ouvriers qui souvent se déplacent doivent avoir un livret visé par la gendarmerie du lieu où ils s'arrêtent.
On voit ça dans un feuilleton extraordinaire français des années 70, Ardéchois, cœur fidèle.
J'allais en parler. Ce qui est grave pour l'ouvrier, c'est que ce livret est contresigné et rempli par le patron. À chaque fois qu'il quitte une place, l'ouvrier, le patron met une appréciation, forte tête, tête de mule, mauvais ouvrier, feignant, etc. Et bien sûr, ça compte pour son embauche. Les ouvriers vont donc s'organiser de façon clandestine. Le compagnonnage qui existe à cette époque-là, à partir de cette époque-là, jusqu'au syndicat, d'ailleurs le compagnonnage existe toujours, il est un peu résiduel, mais c'est dans quelques professions, mais pour l'essentiel, ça n'existe plus. Il y a encore des écoles de compagnons, mais c'est différent du syndicalisme. Ce compagnonnage va être une forme de résistance des ouvriers. Ce sont des organisations semi-secrètes, avec des signes de reconnaissance, etc. Il y a plusieurs fidélités d'ailleurs, hein, bon, plusieurs compagnonnages. Et ils font le tour de France, ils ont des auberges, hein, avec des maires aubergistes, etc. Et puis ils s'arrangent parfois pour boycotter, comme on dirait aujourd'hui, certains patrons qui sont de très mauvais payeurs ou des buveurs de sueur, en quelque sorte.
Cela, c'est un peu une aristocratie ouvrière, parce qu'ils ont un vrai métier dans les pattes, et puis en fait, on a besoin d'eux.
C'est ce qu'on appelait jadis les grosses culottes, quoi, en quelque sorte, hein, parce qu'ils ont des grandes culottes de compagnons, etc. Bien sûr, c'est assez différent, et c'est un peu élitiste, en quelque sorte. Hein. Mais ce compagnonnage va être glorifié par le régime de Pétain, tiens. On va faire un bond jusqu'à la période 40-44. Pétain, travail, famille, patrie, hein, se targue le régime de Vichy de glorifier le travail. Il refuse la lutte des classes, c'est une affreuse invention bolchevique, marxiste, etc. Et en réalité, il va organiser le travail par corporation, une sorte de retour en quelque sorte à la structure d'Ancien Régime, c'est-à-dire une organisation du travail par grands secteurs, hein, le textile, la métallurgie, etc. Et il va faire des organisations où le patronat et les ouvriers, la mano en la mano, dans cette grande confraternité, vont s'arranger pour éviter tout conflit, en quelque sorte.
Sans le frondeur haletant autour du haut fourneau, point d'armature pour le ciment, et sans le cimentier, point de ciment pour l'armature.
Propagande du régime de Vichy, 1943.
Cette solidarité intime de ceux qui travaillent a été pendant des années niée par un régime incapable de subsister sans une démagogie qui le portait à laisser dériver les revendications ouvrières justifiées vers l'agitation politique. La charte du travail, instrument de paix et de concorde sociale, est faite pour aider les hommes à se comprendre sans méfiance et sans haine. À la base, les comités sociaux d'entreprise, qui réalisent au premier degré la collaboration sociale et professionnelle entre la direction et le personnel.
Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison, et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson.
Je vais revenir brièvement sur la charte d'Amiens et sur le syndicalisme à la fin du XIXe siècle. Bon, en 1884, la Troisième République donne la liberté de former les syndicats. Ils existaient déjà, mais n'étaient pas légaux. Hein, il va donc y avoir formation des syndicats. Les syndicats vont fleurir à cette époque-là, littéralement, dans des métiers surprenants pour aujourd'hui. Par exemple, les bûcherons, dont l'Allier était dans le syndicat des bûcherons. Hein, il y avait beaucoup de bûcherons, et ces gens se battaient syndicalement. Bon, alors les syndicats fleurissent sous deux formes. Il y a la première forme, ce sont les bourses du travail. C'est-à-dire que dans chaque ville un peu importante, on fait une bourse du travail, souvent bâtie par la municipalité, dans laquelle les syndicats sont représentés, enfin sont là, ils sont chez eux, et ils discutent de l'embauche, etc. Voilà. Et puis, petit à petit, va se dégager le syndicalisme par branche d'activité. Hein, syndicat des métallurgistes, syndicat des cheminots, syndicat des mineurs, etc., syndicat du bâtiment, etc. Et la CGT, justement, va être la réunion, la confédération de ces fédérations. Alors, il va y avoir des fédérations départementales qui regroupent les bourses du travail et une autre forme d'organisation par fédération de métiers, fédération du textile, fédération des cuirs et peaux, etc., etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Ces fédérations vont se confédérer. 1902, hein, c'est achevé, pour faire la Confédération Générale du Travail. Et c'est la seule confédération à l'époque. Alors, bien sûr, il va se créer assez vite des syndicats chrétiens qui vont donner naissance à la CFTC, début également du XXe siècle, la fin du XIXe, début du XXe siècle, qui sont directement issus du christianisme social, de Marc Sangnier, du Sillon, etc. Mais sinon, pour l'essentiel, les gens sont syndiqués, tous les gens qui veulent se syndiquer. Tous les syndicats sont ralliés à la CGT, donc il y a tous les syndicats dans de tous les corps de métier. Contrairement aux unions anglais, il n'y a pas de syndicat d'ouvriers qualifiés du chemin de fer et d'ouvriers pas qualifiés du chemin de fer, parce que c'était un des traits caractéristiques au départ du syndicalisme anglais, c'est très corporatiste. Hein. Les mécaniciens ne se mélangent pas avec les pauvres gars qui travaillent sur la voie, etc. Il y a une aristocratie du mouvement ouvrier. En France, non. C'est par corps de métier, et les syndicats regroupent tous les gens. Et il va y avoir aussi d'ailleurs une syndicalisation progressivement des fonctionnaires, instituteurs, postiers. D'ailleurs, Clémenceau, la Troisième République, va au départ s'opposer violemment à la syndicalisation des fonctionnaires. Il va y avoir des milliers de fonctionnaires révoqués, foutus à la porte, parce qu'ils se syndiquaient hein, dans les années 1902, 1903, etc. Alors, je reviens donc à ce syndicalisme extrêmement divers et très puissant. C'est dans cette ambiance qu'il va y avoir le Congrès d'Amiens. Le Congrès d'Amiens va réunir des syndicalistes très différents. Il y a des syndicalistes anarchistes, très nombreux. Il y a un anarcho-syndicalisme, mais il y a aussi un syndicalisme modéré. Et il y a aussi un syndicalisme qui aimerait bien naviguer un petit peu avec les socialistes, avec le Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste est fondé en 1905. Il regroupe lui aussi des courants extrêmement divers. Il y avait trois partis socialistes en France, au moins. Ces différents partis socialistes se regroupent sous la puissante influence de Jaurès dans un parti unique, la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, premier nom du Parti socialiste, avec assez vite, en 1904, je crois, la fondation d'un journal, L'Humanité, qui va devenir l'organe officieux du Parti socialiste. Bien sûr, se pose dès le départ la question de la liaison entre le mouvement syndical et les gens qui prétendent représenter les ouvriers au Parlement ou sur la scène politique. Alors, d'abord, pour commencer, il y a beaucoup de syndicalistes purs et durs et d'anarcho-syndicalistes qui ne veulent pas d'aucune liaison avec le Parti socialiste, parce qu'il se méfie. Le mouvement ouvrier se méfie du Parti socialiste, de la forme politique du socialisme de l'époque. Pourquoi ? Bah parce que d'abord, il y a eu des socialistes qui sont arrivés au pouvoir. Dès avant la guerre 14, il y a des gens comme Millerand viennent du Parti socialiste, du socialisme. Or, qu'ont-ils fait ? Ils sont devenus des ministres bourgeois. Ensuite, le Parti socialiste a des députés déjà à cette époque-là, dont le nombre va grossir jusqu'en 1914, mais il y a des députés. Et tous ces députés ne sont pas des défenseurs déterminés de la classe ouvrière. Ensuite, il y a un autre problème aussi. Les anarchistes, il y a à cette époque-là une multitude de sectes anarchistes en France, mais il y a un mouvement anarchiste puissant, et en particulier un mouvement ouvrier anarchiste. Or, ces anarchistes prônent la lutte contre l'État bourgeois et le dépérissement, là, ou même carrément l'abolition de l'État. Donc il paraît contradictoire, en même temps, de demander l'abolition de l'État, de toute l'autorité de l'État, des forces de répression anti-ouvrières, de l'armée, de la justice, et en même temps, de se servir de l'État et des institutions de la République pour faire avancer les revendications ouvrières. Ce qui fait que ce syndicalisme révolutionnaire se dirige assez vite vers des formes d'action directe. C'est d'ailleurs dans la charte d'Amiens. Le but est l'appropriation des moyens de production et d'échange capital. Mais pour le remplacer par quoi ? Pas par une économie d'État, ce que prônaient les socialistes à l'époque, hein, mais par une autogestion. C'est l'autogestion qui est le modèle. Les ouvriers vont organiser eux-mêmes le travail dans leurs usines. Ça sera eux qui vont décider de la production, etc., de l'organisation du travail, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'illusions, une sorte d'utopie, en particulier dans la grande industrie, dans l'état des forces productives de l'époque. Était-il possible que la classe ouvrière s'empare du chemin de fer, s'empare des mines, etc., et les fasse tourner eux-mêmes en mettant à la porte les patrons? Et cependant, c'est ça le grand rêve. Et le mode d'action, c'est la grève générale, insurrectionnelle. La grande grève générale, tout le monde s'arrête de travailler. Avec ou sans insurrection d'ailleurs, parce que enfin, les grands dirigeants de syndicalistes le disent à l'époque, bah, il suffit que pendant 15 jours, tout le monde se croise les bras, pas seulement en France, mais également dans le monde entier, et le capital est foutu.
On part, toi, maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine. Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Il y a aussi un courant insurrectionnel, hein, bien sûr, là-dedans. Mais en tout cas, on est loin de la lutte des socialistes pour le pouvoir et qui retomberait sur les travailleurs. Donc, c'est dans ce contexte que se trouve le congrès d'Amiens. Enfin, c'est pas un congrès, enfin, c'est une réunion générale de la CGT. Et là, c'est à une très très large majorité que passe la charte d'Amiens. Et la charte d'Amiens dit très clairement que le syndicalisme ne doit absolument pas mettre les pieds dans l'action politique. Il doit y avoir une séparation très nette. Libre aux travailleurs, par ailleurs, en dehors du syndicat, d'adhérer à n'importe quelle secte anarchiste ou au Parti socialiste. Alors à cet égard, je relève un petit truc qui m'a un petit peu fait tiquer dans l'article de Pigeonnet. Il dit « affirme l'indépendance de l'action syndicale à l'égard des partis, de l'État et du patronat ». Non, c'est pas ça, c'est l'indépendance de l'action syndicale à l'égard du Parti socialiste et des sectes anarchistes. De toute forme politique. Quant au patronat, le syndicat n'a pas à affirmer son indépendance à l'égard du patronat, c'est enfoncer une porte ouverte, hein, à l'égard de l'État également. Donc c'est l'indépendance à l'égard de la politique elle-même. Politique, mauvais, sale, c'est ça la charte d'Amiens. Mais par ailleurs, pour autant, la CGT de l'époque est traversée quand même par des idées politiques qui vont s'affirmer après la guerre 14. avec la rupture à l'intérieur du Parti Socialiste. Il va y avoir un coup de ménage. C'est ça qui est le plus important et je pense que l'article aurait dû un petit peu plus insister là-dessus. La grande rupture, c'est 1920. La scission entre, d'un côté, la minorité qui reste dans la SFIO et la majorité qui va créer la section française de l'Internationale communiste qui adhère aux thèses de Lénine et qui vont devenir les communistes.
Ça, tu nous l'as déjà expliqué dans de nombreuses émissions sur 14-18. Traumatisme chez les socialistes français en 1914 parce qu'une partie des socialistes va rejoindre le gouvernement bourgeois dans ce qu'on a appelé l'union sacrée. C'est-à-dire que là, une partie des socialistes relègue leurs idéaux et le premier ministre de la guerre de l'époque sera un socialiste. Ce qui crée beaucoup de mécontentement dans les rangs de la SFIO et ce qui donne en 1920 cette scission de la SFIO qui va donner naissance au Parti communiste français.
Mais tu as oublié de dire aussi que la CGT aussi c'est un échec pour elle. Parce que la CGT était antimilitariste, très antimilitariste. Et en 1914, la CGT, en tout cas les représentants de la CGT, baissent leurs culottes aussi, rentrent dans l'union sacrée en quelque sorte. Et puis il y a un naufrage, un abandon, une véritable trahison de l'idéal syndical aussi. Les travailleurs français n'avaient pas à aller se faire casser la gueule contre les travailleurs allemands ou casser la gueule des travailleurs allemands. Il y a donc là, en même temps que le Parti Socialiste, la CGT sombre. Et il va y avoir, la conséquence va être également la même, il va y avoir une scission à l'intérieur de la CGT. Il va y avoir deux CGT à partir de 1920. Une CGT majoritaire, plutôt influencée par les réformistes et les socialistes, la SFIO. Et puis une CGT unitaire, qui elle est minoritaire, mais est dirigée par les communistes. Courroie de transmission des communistes, c'est-à-dire que les communistes, eux, ils disent qu'il faut qu'il y ait une parole politique communiste chez les ouvriers. Ils ne s'en cachent pas. La CGTU doit être aussi un écho dans les luttes syndicales de l'analyse communiste, en quelque sorte. Alors, ces deux CGT vont refusionner en 1935, à la veille du Front populaire, sous la pression de la base dans les deux CGT. Les gens demandent à ce qu'il y ait une unité de façon à faire face au fascisme. Il s'agit d'urgence en quelque sorte. En face du danger fasciste, il faut un seul syndicat. Et donc, ils refusionnent. Non sans mal d'ailleurs, parce que les dirigeants de la CGT, comme Jouot par exemple, les dirigeants socialistes, sont très anticommunistes évidemment. Et quant aux dirigeants communistes, responsables de la CGT communiste, eux, ils sont très méfiants, plus que méfiants, à l'égard des socialistes. Et d'ailleurs, ces divergences vont apparaître pendant la guerre. Pendant la guerre, une partie de l'ancienne direction socialiste des syndicats va collaborer avec le ministère du Travail de Pétain pour ce grand projet de la mano en la mano, etc. Alors que les syndicats sont dissous et la CGT est pourchassée.
Nous sommes en guerre.
10 octobre 1939.
Et le silence, vous le comprenez bien,
Édouard Daladier,
est nécessaire au succès de nos opérations militaires.
Président du Conseil des ministres français.
Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes. Ils annonçaient qu'ils seraient à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées. Et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne pour que ces prétendus nouveaux jacobins fassent l'apologie d'une paix de trahison.
Rappelle-nous ce que c'était que les décrets-lois Daladier de 38.
38, c'est un coup de barre à droite du gouvernement. C'est plus le Front populaire, on peut pas dire ça. Mais c'est la même assemblée quand même. Sauf que là, les radicaux, ils sont plus avec la gauche, ils sont avec la droite. Ce sont toute une batterie de lois qui est dirigée contre le mouvement ouvrier. Car il y a eu une tentative de grève en 1938. Les syndicats ont fait une grève et ça a été un échec parce que ça a été réprimé durement. et toute une série de lois vont s'attaquer à la CGT. Mais c'est quand même le gouvernement de Pétain qui va faire l'essentiel du boulot, puisque la CGT est carrément interdite, ses militants pourchassés, et durement pourchassés, hein, fusillés dans certains cas, déportés, etc. Bon, sauf que c'est une CGT plutôt influencée par le Parti communiste, cette CGT-là. Il reste aussi un syndicalisme plus réformiste, plus modéré, qui s'arrange avec les choses. Ceci pour dire que, et répéter, qu'il n'y a pas de vraie coupure entre le syndicalisme et la politique. Les deux grandes tendances de la gauche, que ce soit la gauche modérée, socialiste, réformiste, etc., ou la gauche révolutionnaire, communiste, etc., ont leur relais dans les syndicats. Et à la Seconde Guerre mondiale, ça va être la même chose. Bon, sauf que à la Libération, la CGT renaît. Sauf qu'il y a toujours les deux grands courants dans le syndicalisme, un courant réformiste et un courant qui croit dans la lutte des classes. Un courant, on va dire SFIO, je parle dans la CGT, hein, et un courant lutte des classes, plutôt communiste. Hein. Bon. Donc, que va-t-il se passer en 1947-48? C'est la guerre froide, il faut choisir son camp, et là, les Américains ne peuvent pas supporter qu'il y ait un syndicalisme sous influence communiste en France, et donc ils vont organiser, avec l'aide des modérés, des réformistes français, la scission à l'intérieur de la CGT. Et il va y avoir création de 3 syndicats, en gros. Alors, la CGT qui reste la CGT, et qui est sous l'influence du Parti communiste, indubitablement, puisqu'une partie de ses membres, c'est des gens du comité central à la direction confédérale, ce sont des militants communistes confirmés. Et ce qui va se créer, c'est la CGT-FO, Force ouvrière. On sait que la CGT-FO, Force ouvrière, a été créée avec les finances de la CIA qui vont transiter par l'AFL-CIO, American Federation of Labor, et par l'intermédiaire du Parti Socialiste. Et ils vont créer FO, qui est un syndicat anticommuniste, déclaré. Et nous ne faisons pas de politique. Ça veut dire, en fait, nous ne sommes pas communistes. Voilà. Et puis, il va y avoir aussi une scission. Les enseignants vont créer un syndicat autonome, la Fédération de l'Éducation nationale, également dirigée par un syndicat des instituteurs très influencé par le Parti socialiste. Alors, dire qu'il y a séparation entre les uns et les autres. La seule chose qui va rester de cette charte d'Amiens, c'est qu'on ne donne pas de consignes électorales. Hein, de vote, etc. Bon, ça, mais en fait, tout le monde sait que les syndicats sont influencés d'une manière ou d'une autre par telle ou telle force politique, et ça reste un peu le cas aujourd'hui. La situation est un peu différente. D'abord parce que Parti socialiste et Parti communiste sont arrivés à un point de faiblesse tel, si tu veux, qu'ils ne peuvent pas influencer les syndicats, sauf à titre individuel de tel ou tel individu, etc. Il reste quand même des traditions dans les syndicats. La CGT reste de tradition lutte des classes, alors que les 3 autres syndicats importants, FO, la CFDT et l'UNSA, sont des syndicats réformistes, modérés, etc. Nous ne faisons pas de politique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas communistes. Donc, en gros, c'est plutôt ça. C'est vers ces syndicats modérés que va la préférence du patronat. C'est évident, hein. Petite parenthèse, la CFDT est née, je crois, en 1964, de la scission de la CFTC, c'est-à-dire des syndicats chrétiens. Et dès le départ, ça a été un syndicat très remuant et même gauchiste, très ultra-gauchiste. En 68, ce syndicat se déclarait beaucoup plus révolutionnaire que la CGT, etc., jusqu'au boutiste. Et bon. Mais déjà, on voyait poindre à l'intérieur de la CFDT le côté proudhonien, autogestionnaire, mutualiste, etc. Alors aujourd'hui, bon, l'évolution est telle que la CFDT est devenue un syndicat pro-patronal.
On appelle un syndicat jaune en général. Quand on dit oui, les patrons se sont entendus avec les syndicats consignés, en général, c'est la CFDT qui signe n'importe quoi et qui fait capoter les mouvements.
Mais je constate quand même que cette CFDT qui court vers la signature d'accords, même d'accords indignes avec le patronat, est quand même en partie dirigée par des militants très proches du Parti socialiste. Donc l'indépendance syndicale, faut pas me faire rigoler en quelque sorte.
On a oublié de mentionner Sud Solidaire, dont la création est assez récente et alimentée par pas mal de gens déçus de la CGT.
Ah oui, oui.
Et eux, c'est des combatifs, hein, Sud, hein, la lutte des classes, tout ça.
Je vais vous dire mon sentiment. Sud Solidaire, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, c'est ce qu'il y avait de meilleur à la CFDT. Ce qu'il y avait de plus combatif, de plus jeune, de plus dynamique, etc. De la CFDT, oui. Ils sont issus de l'affaiblissement considérable de la CFDT dans les grandes corporations, santé, transport, etc. Bon, en voyant qu'ils ont été trahis par leur direction syndicale, beaucoup de gens ont décidé de créer un syndicat. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la FSU qui est un élément essentiel du nouveau paysage syndical. La CGT n'est plus seule et en plus la Sud récupère aussi des militants de la CGT déçus par le bureaucratisme dans certains cas et même la compromission de certaines fédérations professionnelles de la CGT.
Jusqu'à la fin de la semaine, je suis P3 chez Citroën. C'est un bon petit boulot, avec cantine et avantages sociaux. Je suis copain avec Nénès, qui est le délégué du syndicat. À la chaîne des boîtes de vitesse, je suis heureux comme un roi. D'autant plus que le samedi et le dimanche aussi. Avec Maria, on va danser la Java. C'est la jouvencelle chez qui je vais tous les midis pour faire chauffer ma gamelle sur son petit bain-marie. Je l'ai connue l'année dernière au Val de la RATP où ce que travaillait son frère comme prêtre ouvrier. Et ce jour-là, messieurs, dames, à la Salvagram, avec Maria, on a dansé la Java. On s'aime tout comme Adam et Ève, on va bientôt se marier. On attend la prochaine grève pour que je sois augmenté. Comme m'a dit mon contremaître, quand on est jeune, faut se dépêcher. Aussi un enfant va naître qu'on appellera Irénée.
Irénée, le divin enfant.
Et le soir, sans un mot, autour du berceau, avec Maria. On ira danser le Let Kiss.
La charte d'Amiens empêche-t-elle la convergence des luttes ? Épineuse indépendance syndicale.
Revenons au fond de l'article. Cet article est né parce que certains ont évoqué la charte d'Amiens pour surtout que les syndicats n'aillent pas aux manifestations appelées par les insoumis de Mélenchon.
Ah, nous y voilà, le vilain Mélenchon, tout ça pour ça.
En réalité, c'est ça. Si les syndicats avaient appelé à une grande manifestation pour Marine Le Pen, Fillon ou Macron, ça aurait été des bons syndicats. Bon, alors la question se pose de cette façon-là. Est-ce que, d'un côté, Mélenchon abuse en voulant demander aux syndicats de participer à des manifestations politiques contre le gouvernement d'aujourd'hui. Deuxième question, est-ce que les syndicats sont dans leur rôle de syndicat de participer à une manifestation comme ça? Bon, c'est très légitime, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'une demande de Mélenchon que les syndicats viennent renforcer les insoumis, mais l'inverse, c'est-à-dire que les insoumis se mettent à la disposition des syndicats pour créer un grand mouvement de protestation contre les lois antisociales de Macron. Pendant le Front Populaire, il y a eu de grandes manifestations qui étaient en même temps des manifestations favorables au Front Populaire et où participaient des milliers de syndicalistes. Et à cette époque-là, il y a eu une coopération très étroite entre le syndical et le politique, puisque les accords Matignon ont été discutés et par les syndicats et par les partis politiques. Et c'était des accords législatifs, des accords de loi, de règlement, etc., qui concernaient directement l'activité syndicale, puisqu'il s'agissait de lois du travail et d'augmentation de salaire, etc. Et aujourd'hui, les lois sur le code du travail, les lois sur la retraite, les lois qui est en train de nous concocter Macron, sont des lois antisociales qui concernent directement le syndicat. La loi sur la privatisation des services publics, ça va être des lois discutées au Parlement. Donc les syndicats ont tout intérêt à peser en même temps que leurs alliés politiques au sein du Parlement. En fait, bon, cette polémique, c'est une polémique à la mort moelle-neuve, c'est destiné en fin de compte à empêcher toute convergence des luttes qui serait capable de renverser le courant et d'empêcher Macron de massacrer la protection sociale. Donc bien sûr, tous les journalistes sont là à faire de l'histoire, à s'en sous la brouette et à invoquer les mânes des grands syndicalistes du temps. Ça fait un peu rigoler quand tu vois ces gens-là invoquer la charte d'Amiens, qui est une charte anarcho-syndicaliste, de gens qui étaient pour l'appropriation de tout le capital et l'insurrection des travailleurs, hein, et les patrons à la porte, etc. Non mais attends, alors là les bras t'en tombent des mains, quoi. Tu te dis, mon bel, c'est le monde à l'envers. Mais ils sont capables d'utiliser, de manipuler l'histoire à fond la caisse, ces types-là. Et ils ont malheureusement une quantité de relais, de gras de papier, de piscopie qui sont là pour leur donner des arguments à la noix, de l'utilisation de l'histoire, hein. Alors, de manière générale, l'histoire, elle est oubliée, elle est étouffée, elle est enfumée par les médias. Et de temps en temps, on sort un petit truc qui semble ressembler, hein, de façon à manipuler les gens. Bon, l'histoire est l'objet en permanence d'un viol. Elle devrait protester, tu sais, balance ton porc historique, tu sais.
Un micro-phénomène là dans le conflit social qui nous occupe aujourd'hui en ce printemps été 2018, hein, les cheminots contre Macron et sa France en marche vers le 19e siècle. Mais alors là, Macron, on n'a plus rien à faire, hein, de machin, et il a envoyé paître la CFDT, il a même plus besoin de syndicats jaunes pour faire passer ses lois scélérates.
Ils sont très sûrs d'eux, il y a une insolence de ces gens-là. Ils pensent que c'est gagné, hein, que les gens vont se coucher. Ils vont aller en vacances, ils vont oublier. En ce moment, ils pensent qu'on peut tout faire passer. C'est la seule chose qui les différencie de Hollande et de ses copains. Hollande et ses copains pensaient quand même que ça risquait de grincer, etc. Il est vrai que pour des socialistes, ça fait quand même drôle de liquider les lois sociales, mais surtout des lois sociales qui ont fait partie du combat socialiste, y compris des socialistes modérés depuis 100 ans, quoi. Ça fait un peu bizarre. Tandis que lui, Macron, non, il a aucun complexe. Il dit, moi, je peux le faire, moi, je suis pas socialiste. J'y vais carrément, quoi. Sans complexe. Quoique, ils en ont pas besoin, mais ils vont quand même ils sont en train de les solliciter en ce moment. Mais oui, l'UNSA et la CFDT, qui sont les syndicats jaunes par excellence, et peut-être même FO, on sait pas, hein, sont en train de discuter, de savoir, on va vous liquider le statut, mais peut-être qu'on va vous garder un ou deux petits avantages, comme ça, pour faire passer. Puis en plus, on vous paye la dette. Alors bon, la dette, on sait qu'en fait, c'est une dette d'État, c'est pas une dette d'entreprise, puisque c'était une entreprise d'État. C'était à l'État de faire les investissements, c'était pas à la SNCF d'emprunter sur le marché privé des capitaux, en quelque sorte. Bon, enfin, passons. Toujours est-il qu'ils ont quand même encore besoin d'avoir quelques jaunes dans la poche. Mais ça paye d'être jaune. Regarde ce que sont devenus tous les dirigeants.
Belle carrière pour Nicole Nota, par exemple.
Mon maire, Nicole Nota, tous ont eu des parachutes dorés invraisemblables, soit au Bureau international du travail, soit etc. Et certains à la CGT même aussi sont tentés de solliciter des remerciements. Hein. Et puis, il y a eu la valise remplie de pognon, tu sais, du gars de
Laquelle ?
UIMM, je crois, un truc.
Pour, dixit le MEDEF, fluidifier les relations sociales.
Ah oui, c'était pas pour payer les dirigeants syndicaux, c'était pour fluidifier le dialogue social. Mais c'est extraordinaire. Mais il est vrai que ça peut passer, puisque dans toute la presse, depuis des décennies, on peut dire, on ne parle plus de syndicats ouvriers, de syndicats patronaux, etc. Mais on parle de partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, c'est des partenaires. C'est pas des adversaires, puisque ce sont des partenaires.
Donc, on se remet à dire collaborateur aussi, hein, parce que le mot a été un peu entaché pendant quelques temps, mais on a...
C'est à la mode, oui, c'est ça. Collaborer, la grande œuvre de l'apaisement social. Ouais, bon, c'est...
Les cheminots, ils sont bien conscients que ça ennuie les travailleurs et les gens qui veulent aller bosser, mais ils n'ont que ce moyen-là pour tirer le signal d'alarme. Les cheminots sont le dernier rempart avant la destruction de toutes nos autres conquêtes sociales. La retraite à laquelle Macron là, a commencé à s'attaquer après tous les gouvernements successifs, hein, qui ont défilé depuis Mitterrand jusqu'à nos jours, en passant par Juppé, Raffarin, etc. Macron continue le travail de destruction de la retraite, mais on a bien compris que derrière, c'est aussi la destruction de l'école, la destruction de l'hôpital, la destruction de tous nos services publics. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les cheminots, parce qu'ils sont... probablement notre dernier bouclier avant cette mise en place d'une société sauvage qui nous emmène tout droit dans les bras du Front National ou de je ne sais quelle formation fasciste.
Oui, non, mais c'est très inquiétant parce que pour l'instant, les gens font le dos rond, rentrent la tête dans les épaules, attendent que ça se passe et puis laissent les syndicalistes de la CGT et d'autres services publics faire la lutte pour eux, par délégation en quelque sorte. Il y a quelque chose là d'assez lâche, il faut dire, ce qui est d'assez moche là-dedans. Même quand ils pensent que les cheminots, ils ont raison, même quand ils pensent qu'ils travaillent pour eux, il n'y a pas d'acte véritable acte de solidarité. Le véritable acte de solidarité, c'est de rentrer eux-mêmes dans la lutte, en quelque sorte, pour les salariés. Or, on voit la passivité, la pusillanimité de l'opinion publique et des autres travailleurs. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, parce que, bien sûr, il risque de passer, Macron. Il fait passer cette loi-là, il fait passer le reste. Une fois que les bastions où il reste encore des syndicalistes, où il reste quand même encore de la combativité, sont vaincus, qu'est-ce qui va l'empêcher de porter la retraite à des âges invraisemblables et de diminuer les cotisations patronales et de revenir effectivement au libéralisme pur et dur du 19e siècle. On revient 100 ans en arrière. On revient 100 ans en arrière, que les gens examinent les lois sociales et ils verront que c'est un recul énorme, considérable, qui va affecter une quantité de gens. Il sera temps, quand ils auront leur retraite de merde, de pleurer, « Ah là là, si on avait su, etc. » Mais on vous l'a dit, vous allez vers un appauvrissement des travailleurs, un appauvrissement des retraités, un appauvrissement général du travail au profit du capital. C'est fait pour ça. Alors bien sûr, à chaque fois on nous dira, oh, vous avez vraiment l'esprit mal tourné, ces gens sont-ils si affreux, si abominables? Mais oui, ils le sont. Le profit, c'est le profit. Le capital, c'est le capital. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Ils n'en auront jamais assez. Ils en ont accumulé depuis 20 ans des montagnes de pognon, on le sait. C'est tout juste si de temps en temps on dit « Ah oui, dis donc, ce patron, avant de partir, il s'est alloué un salaire absolument faramineux. Hein. Le patron de Carrefour gagne 538 fois le salaire de la caissière. 538 fois. Ah oui, c'est un peu exagéré quand même. Bah oui, oui, c'est un peu exagéré, en effet, quoi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Carrefour va fermer des centaines d'établissements, de petits mini-markets, etc., en flanquant à la porte des milliers de personnes, selon toute probabilité. Ils s'en foutent, Carrefour, c'est un groupe financier, hein. Carrefour est capable d'ouvrir ailleurs, hein, d'ouvrir dans n'importe quel pays du monde, etc. Le capital accumulé par l'exploitation des travailleurs en France va être investi ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour eux. Inquiétez-vous pour vous. Bon, c'est un peu désespérant. Mais il y a eu des périodes de désespérance comme ça. Il faut quand même que les gens se disent qu'il y a eu des périodes affreuses. Imaginez à la veille de 1914 ou à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ça qui est inquiétant. C'est que généralement, ça prélude à d'énormes crises, que ce soit des crises économiques ou que ce soit des crises de guerre. Et ça sent la guerre en ce moment. Ça sent la guerre. C'est aussi un des moyens qu'a le capital pour faire tenir les gens tranquilles. Ça et le fascisme. La voie de prise de pouvoir par la mère Le Pen et ses alliés, en quelque sorte, elle est tout à fait ouverte. Hein. L'extrême droite peut prendre le pouvoir, hein. Bien sûr. À la faveur d'une haine de l'étranger, de l'immigré qu'on va entretenir. La peur. Le grand parti de la pétoche. En fait, c'est formidable pour eux, les attentats. C'est bien la violence. Oh là là, ma pauvre dame, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Ça justifie toutes les atteintes aux libertés d'un mec comme Colomb. Alors, c'est pas étonnant que ce soit un mec qui vienne de la gauche, parce que, enfin, de la gauche socialiste, hein. Après Clémenceau, au début du XXe siècle, qui réprime brutalement, avec des morts, les grèves ouvrières, voire Villeneuve-Saint-Georges et compagnie, tu vois, où on envoyait l'armée qui tirait avec le Lebel, hein, ça rigolait pas, quoi. Ensuite, t'as Jules Moc, hein, 1947-48, hein, alors là, lui, c'est pareil, il envoie l'armée, et ça mitraille les travailleurs. Puis aujourd'hui, c'est Colomb qui va mitrailler. On envoie des syndicalismes en tribunal pour des merdes de chiens parce qu'ils ont envoyé des confettis et des tomates au siège du patronat. Quand on en est là, ça va très très mal, quoi.
Il y a aussi là, en ce moment, le cas du postier Gaël Quirante, qui est représentant syndical et qui s'est fait lourder de la poste en toute illégalité, hein, et sur ordre de la ministre Pénicaud. Ils ont plus peur de rien. Hein.
Non, non, ils y vont à fond. Souviens-toi, la chemise arrachée du DRH de Air France pour une action comme ça, où il n'y a jamais eu une blessure, ni un mort, un truc comme ça. C'est tout juste si on n'a pas fusillé les mecs, quoi. Là, je pense qu'il faut que les travailleurs réagissent, quoi. Tout le monde réagisse, les travailleurs, les retraités. Parce que tu vas voir, ils vont pas seulement toucher aux futurs retraités. Ils vont racketter les retraités d'aujourd'hui.
En plus qu'aujourd'hui, tu veux dire.
Ces salauds de retraités qui bouffent le pain des jeunes, etc. Enfin, tu vois le genre de discours, quoi. Bon, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire, bien dire à nos auditeurs que c'est l'oubli de l'histoire qui amène les catastrophes comme ça. En particulier sur les conquêtes ouvrières, sur l'action syndicale, que les gens essayent de remonter dans le temps pour voir quelle était la condition des travailleurs simplement au début du XXe siècle, comparé avec toutes les conquêtes qui ont eu lieu ensuite après sous le Front populaire et à la Libération, et ensuite encore, il y a eu encore eu des conquêtes. Tout ça a été gagné par des gens qui ont fait la grève, par des syndicats. Vous imaginez pas que c'est la bonté du patronat, hein, entamant ses bénéfices. Le patronat veut bien concéder aux ouvriers la retraite, la protection sociale.
Prenant subitement conscience que tout ça n'est pas très juste, oui. Les patrons sortent leurs cornes d'abondance après être allés voir monsieur le curé.
C'est la grande illusion. Il y a encore des gens qui pensent que les patrons, on leur doit beaucoup parce qu'ils embauchent. Il m'a embauché, quelle bonté. Hein. Bon, ils oublient simplement que le travail est exploité. C'est-à-dire qu'en fait, le salaire que reçoit n'importe quel travailleur salarié, le salaire n'est qu'une partie de la valeur de son travail. Sinon, comment ferait le patronat pour avoir son bénéfice? Le bénéfice vient de là. Et ça n'a pas changé depuis qu'existe le salariat et le capital. On est embauché et le patronat vous verse un salaire. Et ce salaire est forcément inférieur, et pour le patronat, si possible, plus inférieur possible, parce que c'est l'écart entre la valeur du travail et le salaire qui fait le bénéfice patronal. Et rien d'autre. On voit depuis 20 ans le bénéfice du capital augmenter considérablement. On a fait le calcul, hein, les économistes, ce n'est pas forcément des prophètes, mais ils ont fait le calcul entre ce qui revient au capital, aux actionnaires, aux gens qui détiennent l'outil de travail, l'usine, le rail, la banque, etc., et ce qui revient au travail, au salaire. Et ce rapport a considérablement changé. C'est-à-dire que ce qui revient aujourd'hui au capital, aux actionnaires, infiniment plus grand que ce qui revenait jadis aux actionnaires. L'augmentation de la productivité, le profit, la croissance, tout ça a profité uniquement aux actionnaires. Et aujourd'hui, même la part revenant aux actionnaires est telle que même l'investissement nécessaire dans les entreprises est compromis. Mais ils s'en foutent de toute façon. Après, on revend. On met son capital ailleurs et puis c'est tout, ils s'en foutent. Ça se traduit par le chômage, ça se traduit par les délocalisations, ça se traduit par la disparition de secteurs entiers de la production. Et ils en veulent encore plus. Ils n'en ont pas assez. Et ils trouvent que les charges sociales, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on paye pour les sécurités sociales, c'est insupportable. C'est vrai, il y a des pays comme la Malaisie où il n'y a pas de sécurité sociale, quoi. Ce qui a été gagné par le système de sécurité sociale est totalement, entièrement remis en cause. Il a été en Angleterre, en Allemagne et maintenant en France. À terme, il s'agit de supprimer ça et puis de renvoyer les gens à l'épargne et aux assurances privées. Et aux soins privés, bien sûr, à l'école privée, aux transports privés, etc. Par la suppression des services publics. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Les gens n'imaginent pas ce qu'ils vont perdre par la perte des services publics. Ils s'en sont déjà un petit peu aperçus avec les télécoms, la poste, etc. Mais,
le train ?
Mais je pense qu'ils ne l'ont pas encore assez profond. Ils vont s'apercevoir qu'une fois que tout sera privatisé, il va falloir payer cash, hein, et cher, le plus cher possible. Et il y a des gens qui pourront payer. On ne va pas supprimer le train, on ne va pas supprimer les hôpitaux, on ne va pas supprimer les écoles et les universités. Simplement, il faudra payer pour y aller, quoi. Hein, le bon vieux système américain. Là, les gens vont comprendre leur douleur.
Alors qu'il se produit en France des montagnes de richesses, il n'y a jamais eu autant de richesses en France. On a plus que les moyens de payer services publics, retraite, hôpital, tout ça.
Bien sûr, on a les moyens.
C'est ça, parce que c'est pour les gogos à qui ils disent « Ah, mais il y a la dette, on peut plus, on est devenu un pays du tiers-monde. »
Oui, tous les intox, il y en a un paquet qui ont bien voulu se laisser intoxiquer ou qui se sont laissés intoxiquer par faiblesse intellectuelle. Bien sûr qu'on a archi les moyens de donner du travail, des situations, des logements à tout le monde, de la santé de qualité, de l'enseignement de qualité, etc. À tout le monde, du pognon, il y en a à chier, il y en a même trop. La prochaine crise financière que je prévois, ce sera en fait sur une montagne de pognon qu'elle va, ce qu'on appelle une bulle spéculative. Alors le pauvre Pékin, le chômeur, etc., il sait pas ce que c'est qu'une bulle spéculative, parce que avec ses 500 ou 600 euros par mois, qu'est-ce que tu veux qu'il imagine des montagnes?
Encore pour les plus nantis d'entre eux.
Et comment peut-il imaginer une montagne de pognon? Et pourtant c'est ça qu'on va supprimer, qu'on va brûler. Et ensuite, après, on se tournera vers les contribuables pour renflouer les banques qui ont joué au Monopoly pendant 20 ans. Quoi. C'est comme ça que ça va se passer. La prochaine crise financière sera certainement encore plus douloureuse que celle de 2008. Hein. Et on n'a pas les moyens de l'empêcher. Aucune institution, banque, finances publiques, etc., n'a les moyens. Parce qu'on a affaibli l'État et on a mis la monnaie au service du grand capital par les institutions européennes, ce qui fait que... Alors tous les petits épargnants d'aujourd'hui qui sont si frileux politiquement et socialement, parce qu'ils ont une petite bas de laine, etc., une petite épargne de plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros, là, ils vont le sentir passer. C'est eux qui vont morfler. C'est pas le grand capital. Le grand capital s'en sort toujours. Toutes les crises financières n'ont jamais vu la suppression du grand capital. C'est toujours les petits qui morflent. Alors généralement, c'est la loi de Darwin. En quelque sorte, les plus faibles sont lessivés, nettoyés. Bon, il faudrait que ces choses-là changent. Hein. Évidemment, on comprend bien l'âpreté de la lutte politique et sociale aujourd'hui. C'est que les enjeux sont fondamentaux. C'est-à-dire que ces gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on pourrait s'imaginer que ils vont peut-être en lâcher un petit peu pour essayer de remettre de l'huile dans les rapports sociaux, etc. Mais non, ils n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez et c'est parce qu'ils en ont beaucoup qu'ils en réclament beaucoup. Tout l'argent qui échappe pour l'instant aux échanges marchands, capitalistes, tout ce qui est sécurité sociale, protection, services publics, tout ça va devoir être laminé, rendu au secteur, au marché, hein, de façon à pouvoir refaire du capital. Parce qu'ils ont beaucoup de capitaux, mais ils n'ont pas toujours les lieux pour l'investir. Alors bon, pour l'instant, ils s'engraissent sur les finances publiques par la dette. Parce que la dette, elle sert à enrichir les riches. Hein. Faut pas que les gens s'imaginent que, oui, on a fait des dépenses à considérer, l'État, n'est-ce pas? Et puis, il faut bien rembourser, c'est comme un ménage. Mais non, pas du tout. En fait, en réalité, les financiers sucent, comme d'ailleurs à l'époque de Louis XVI. Hein. À l'époque de Louis XVI, il y a un déficit budgétaire considérable. Le service de la dette, comme on dit, c'est-à-dire les intérêts servis aux financiers qui ont avancé de l'argent à la monarchie française, à l'État français, eh bien, constitue 40% des dépenses du premier budget, celui de 1788. On fait un budget pour la première fois pour calculer. Et là, on s'aperçoit que rien que pour servir les intérêts de la dette, on doit dépenser 40% des revenus de l'État. Bon, il est vrai aussi qu'à l'époque, tout le monde ne paye pas d'impôts, c'est comme aujourd'hui. C'est un problème fiscal, hein, ce qui caractérise le démarrage de la Révolution française, c'est fondamentalement un problème fiscal. C'est-à-dire que l'État, en quelque sorte, est en banqueroute, c'est-à-dire en faillite, parce que l'impôt a un très mauvais rendement, et en plus, il est payé seulement par les roturiers, en quelque sorte, et les immenses richesses de l'Église et de la noblesse ne sont pas taxées. C'était ça la solution, c'était de taxer toute la richesse foncière à l'époque, hein, c'était essentiellement une richesse foncière. Aujourd'hui, elle est là aussi la solution. La solution, elle est une solution fiscale. Il faut faire cracher les gens qui ont de l'argent. Il faut donc modifier le système de prélèvement fiscal et social, puisque la sécurité sociale aussi est une forme de contribution. Et donc, il faut rétablir la contribution des entreprises, des chefs d'entreprise, des patrons à la dépense sociale, suivant sa part, hein, une part ouvrière, une part patronale, comme ça avait été décidé à la Libération. Et donc, cette loi, ils n'en veulent pas. Vous imaginez qu'il y a des milliards en jeu. Je vous rassure, hein, Monsieur Rothschild ne va pas aller faire la manche à la sortie de Notre-Dame de Paris, hein, t'as pas 100 balles, etc. Ces gens-là ne seront pas ruinés, mais ils vont perdre des sommes tout à fait inconsidérables. C'est eux ou nous? Faut choisir. Bon, Macron, il a choisi, hein. C'est eux. C'est eux, quoi. C'est très clair. C'est un ancien employé de Rothschild. Il va pas s'amuser à racketter son patron, hein, en quelque sorte. Et donc, il a choisi le grand capital et il nous entube. Il nous entube et il nous rackette. Plus grave encore, il modifie la société pour en refaire une société de jungle sociale comme elle a pu être au début du 19e siècle. C'est-à-dire, des ouvriers libres s'embauchent sur un marché libre du travail et le patron, sympa, embauche les ouvriers et leur paye un salaire en quelque sorte. Bon, on a vu ce que ça donnait. Hein. Le salaire ne correspondait même pas à la reproduction de la force de travail et à la reproduction des travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les sommes étaient absolument dérisoires et les gens étaient dans une pauvreté qui a été décrite, une pauvreté extrême. Voilà d'où nous sommes partis et d'où nous sommes en train de revenir. Alors, bien sûr, le patronat, on lui demande d'être un mécène, hein, d'être bon avec la nature, d'être bon avec les œuvres d'art, etc., etc. Et il y a plein de cons qui croient à ces trucs-là. Bon, je salue mes auditeurs et je leur dis, continuons la lutte, hein, ce n'est qu'un début.
Ou comme le claironne le slogan de cette émission, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Merci à André, notre prof d'histoire géo préféré que vous retrouverez bientôt dans ce programme, que vous pouvez réécouter sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com, avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, même lieu, même heure. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G 101.5 FM.
It's the best right here, bumping up the rhyme, pushing.